Et on va commencer tout de suite en accueillant le docteur Claire Boutolot-Bretonnière, qui est neurologue et responsable du CM2R, Centre de mémoire et de recherche du CHU de Nantes. Bonjour.
Bonjour Claire,
vous allez nous parler des dernières avancées thérapeutiques sur la maladie. Et il y aurait des résultats encourageants, vous allez nous dire tout ça. Merci beaucoup à vous d'être là.
Merci et merci aux organisateurs de m'avoir conviée à parler justement de cette actualité. Donc évidemment, la recherche, c'est vaste. Donc j'ai fait un focus sur les médicaments à venir avec un petit point d'actualité au préalable. Donc pour que tout le monde parte des mêmes bases, on va faire un petit récapitulatif de choses que certainement un certain nombre d'entre vous connaissent, parce que c'est la cascade amyloïde, on en parle depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, mais c'est important de comprendre de quoi on va parler ensuite par rapport aux essais thérapeutiques qui ont lieu actuellement. On parle de cette fameuse cascade amyloïde, hein, c'est l'hypothèse qui prévaut, qui est un peu mise à mal parfois, on n'est pas certain qu'on est dans le vrai. Pour autant, pour l'instant, la majorité des essais thérapeutiques en cours sont axés sur cette cascade amyloïde. Donc la cascade amyloïde, c'est quoi? C'est une protéine qui est une grosse protéine qu'on a tous, qui est scindée par des petites enzymes en petits morceaux, et il y a un petit morceau qui s'appelle le peptide amyloïde, qui va, en se constituant petit à petit en oligomères, en fibrilles et en plaques, devenir toxique pour le cerveau et donc paralyser le fonctionnement normal des neurones et faire que les neurones fonctionnent moins bien. Et puis, il y a une deuxième actrice dans cette cascade, c'est la protéine Tau, TAU. Et cette protéine, de la même manière, elle va venir s'agglomérer, former des petites dégénérescences qui vont, là encore, abîmer le fonctionnement synaptique. Donc voilà cette grosse protéine qui est coupée avec des petites enzymes qui sont représentées par des petits ciseaux en petits peptides. Et donc, ça donne ça en photo un peu stylisé, avec une agglomération petit à petit de ce petit peptide amyloïde qui va faire des protofibrilles, des fibrilles insolubles, puis insolubles, et qui vont aller rendre compte de ce qu'on appelle la fameuse plaque sénile, la plaque amyloïde, hein, qui est vraiment ce vers quoi on veut faire en sorte qu'on n'aboutisse pas à ce résultat-là. Et puis la protéine Tau, eh ben, c'est vous imaginez vos axones, hein, donc les neurones, ils communiquent entre eux avec ce qu'on appelle des axones, c'est comme des fils électriques. Ces fils électriques, pour qu'ils soient bien stables dans le cerveau, ils sont maintenus par un cytosquelette, hein, donc c'est une sorte de d'échafaudage en fait, qui soutient un petit peu tous les axones, et il y a les petits liens pour tenir un peu tout cet échafaudage, c'est la protéine Tau. Et cette protéine Tau, quand elle s'abîme, eh bien, elle va former, alors on m'a dit que j'avais un petit pointeur, elle va former, vous voyez, elle sort des microtubules, là, et finalement, elle part un petit peu dans le cerveau, et elle va aller, du coup, abîmer toutes les ramifications, et ça donne ça, cette fameuse dégénérescence neurofibrillaire. Donc la plaque sénile plus la dégénérescence neurofibrillaire, ce sont, en l'état actuel de nos connaissances, ce qui peut tout à fait changer dans les années à venir, mais pour l'instant, c'est ce qui constitue la maladie d'Alzheimer dans le cerveau. Du coup, une fois qu'on a posé ce prérequis-là, quelles sont les actualités de la recherche? Déjà, il y a deux petites innovations, enfin, qui ne sont pas si petites, hein, des innovations thérapeutiques. La bonne nouvelle de cette année, la très bonne nouvelle de cette année, c'est que jusque-là, toute l'Europe disposait de ce fameux traceur amyloïde, c'est-à-dire qu'on injecte, on fait une imagerie fonctionnelle, on regarde comment fonctionne le cerveau, en injectant, et le docteur Gauthier en parlera beaucoup mieux que moi après, en injectant un produit qui trace, qui montre l'amyloïde dans le cerveau, les fameuses plaques séniles. Et en fait, ce traceur, il est disponible depuis de nombreuses années, mais en France, de la même manière que les médicaments sont déremboursés, eh ben, on n'avait pas le droit, en soins courants, d'avoir accès à ce type d'examen. Et donc en juillet, on a eu l'autorisation, donc il y a un laboratoire qui a eu l'autorisation de fabriquer avec un remboursement de sécurité sociale en soins courants, dans certaines indications triées sur le volet, la possibilité d'avoir recours à cet examen. On l'attendait depuis très longtemps, parce que ça ne va pas tout résoudre les problèmes diagnostiques et des formes complexes chez les patients jeunes ou chez les gens qui présentent des formes cognitives atypiques, on va dire. Hein. Mais vraiment, on était les seuls d'Europe à ne pas avoir à disposition cet examen, et c'était vraiment un petit peu un scandale. Une autre grosse avancée de ces dernières années et qui commence à se profiler de manière vraiment, vraiment, vraiment de plus en plus, on va dire, admissible aux soins courants, là encore, c'est les dosages dans le sang des marqueurs, donc marqueurs amyloïdes, marqueurs de protéines tau également, mais dans le sang. Vous savez qu'actuellement, pour faire un diagnostic de certitude, ou en tout cas s'approcher du diagnostic de certitude de maladie d'Alzheimer, on réalise une ponction lombaire. Et dans la ponction lombaire, qu'est-ce qu'on dose ? L'amyloïde et tau. Hein, toujours nos deux actrices du début de la cascade amyloïde, amyloïde et tau. Donc pour l'instant, on dose ça dans le liquide cérébrospinal. Donc c'est un examen qui est un peu invasif quand même. Donc à la fois cette année, le PET amyloïde qui permettra de tracer l'amyloïde sans faire de ponction lombaire. Et puis par ailleurs, deuxième voie qui se profile pour le diagnostic, les marqueurs sanguins. On en parle depuis très très longtemps, les marqueurs sanguins. Ça pose plein de problèmes, parce que la question, c'est quand est-ce qu'on fait la prise de sang ? Le résultat, qu'est-ce qu'on en fait ? Hein, on sait que les marqueurs dans le cerveau de la maladie d'Alzheimer, ils sont 10-15 ans avant, présents avant les symptômes. Donc, faire une prise de sang, soit, mais il faut que, quand on ait un résultat, on puisse l'interpréter en termes temporels. C'est-à-dire, à un moment donné, en fonction d'un seuil donné, est-ce qu'on est vraiment au seuil de la maladie ou est-ce qu'on est... En devenir, mais peut-être dans 10 ans. Donc, c'est toute cette problématique qui rend les dosages plasmatiques complexes. Mais avec les dernières actualités, c'est qu'avec, on imagine une combinaison en fait, de plusieurs marqueurs, on peut finir par affiner le diagnostic et rendre des résultats qui soient interprétables de manière le plus, avec une sensibilité, une spécificité la meilleure possible, et qu'on puisse traduire en efficience au plan clinique. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très près d'aboutir. Et puis maintenant, parlons des traitements. Et donc les traitements, et bien avant de parler des traitements qui vont sortir, hein, on a une très bonne nouvelle, le 27 septembre très exactement, donc très peu de temps après la journée Alzheimer. Avant de parler des nouveautés, déjà parlons de ce dont on dispose, hein, et les traitements actuels. Les fameux traitements symptomatiques qui sont disponibles, avec une efficacité tout à fait modeste, mais indéniable, prouvée depuis 20 ans, plus aucun lobbying pharmaceutique, ils sont tous génériqués. Eh bien, il faut savoir, donc c'est Aricept, Exelorimenil, hein, Donepezil, Rivastigmine, Galantamine, et puis il y a également un antagoniste des récepteurs NMDA qui sont la mémantine. Mais il faut savoir que en 2021, donc sort dans le monde, mais pas chez nous, bien sûr, hein, parce que nous, ils ne sont pas remboursés. Et on continue à faire des recherches avec le donepezil. Il continue à être testé pour des tas d'indications. Et notamment, ils vont sortir un patch, hein, un patch à raison de deux fois par semaine, donc, ce qui permet de diminuer les applications. Donc, c'est approuvé aux États-Unis par la FDA, avec deux dosages aussi efficaces que le comprimé. Donc, tout ça pour vous dire que nos traitements pas remboursés, ils ont une efficacité tout à fait modeste, indéniable. Il n'y a que la France qui ne les rembourse pas. Même les Anglais, qui sont assez durs en affaires, les remboursent. Et donc, ils ont toute leur place. Et il y a aussi de l'actualité les concernant. Je ne vais pas revenir sur le descriptif parce que vous connaissez par cœur, mais ça booste l'attention, la concentration. Et surtout, voilà. Ça, c'est une petite revue de presse. Vous voyez, 2018, 2015, 2021, 2022. Donc, il y a plein de publics qui sortent sur le fait qu'il y a une efficacité modeste, mais indéniable. Ça retarde la grande dépendance. Clairement, ça retarde l'institutionnalisation. Donc, c'est modeste, mais ça le mérite d'exister et ça coûte 18 euros par mois. Alors, maintenant, donc, ouais, il y a un 30%, mais ça, c'est connu, archi connu. Hein, mais ça stabilise les troubles du comportement, ça structure le point de soin et ça coûte moins de 20 euros. Donc, ça, c'est important de nous dire que ces traitements-là, symptomatiques, leur efficacité, pour l'instant, on n'a pas fait mieux. Et donc on s'efforce, il y a plein de molécules, on va le voir, qui tentent de faire mieux. Pour l'instant, on n'a pas fait mieux, donc c'est important de consolider ça et de faire des essais thérapeutiques, souvent qui sont en association avec ces médicaments. Donc actuellement, il y a 143 molécules à l'essai en 2022, hein, donc environ 50 500 très exactement participants dans le monde. Donc vous voyez, donc pour une maladie qui touche déjà à l'échelle de la France 1 million de personnes, on voit qu'il y a très peu de gens qui bénéficient d'essais thérapeutiques dans cette pathologie Alzheimer. C'est vraiment compliqué. Les critères d'inclusion sont complexes. La motivation, hein, c'est pas toujours facile de se dire au moment d'une annonce diagnostique qu'on va consacrer beaucoup de temps à venir à l'hôpital alors qu'on a l'impression qu'on se sent plutôt bien au moment du diagnostic. Donc il y a vraiment une difficulté, hein, de recrutement de patients dans les essais de type Alzheimer. 143 molécules, 50 500 participants dans le monde, avec 17% de médicaments plutôt sur le versant symptomatique. Donc, quand on dit symptomatique, c'est les médicaments dont on dispose, donc c'est ceux qui boostent l'attention, la concentration, qui diminuent les difficultés comportementales. Et puis, il y a une grosse partie, comme vous le voyez, 83%, donc 80%, qui sont censés modifier le cours évolutif de la maladie, hein, donc vraiment agir sur la maladie. Donc ce petit schéma, il est là pour vous montrer simplement que voilà, c'est 243 molécules, ou 143, je ne sais plus ce que j'ai dit juste avant. Merci, c'était juste pour voir si on suivait bien. Et donc vous voyez qu'on a ceux qui modifient véritablement la biologie de la maladie, ceux qui vont aller modifier un petit peu le comportement, les petites molécules qui vont, et donc à la fois des molécules de type perfusion, anticorps, anti-amyloïdes, etc., on va y revenir, et puis des comprimés de toutes sortes, hein, des anti-épileptiques, des anti-diabétiques, qui ont peut-être potentiellement une activité sur la plasticité du cerveau, la plasticité des synapses, pour essayer de rebooster les fonctions cognitives. Donc il y a, on ne va pas pouvoir revoir ensemble les 143, j'ai fait un petit tri de ce qui est en France, et notamment à Nantes. Hein. Et donc, premièrement, les antitaux. Hein, donc vous avez reconnu notre ami la dégénérescence neurofibrillaire. Eh bien, en antitaux, on a plusieurs voies d'action. Il y a des thérapies géniques. Hein, donc actuellement, la thérapie génique dans la pathologie Alzheimer, elle est en plein essor avec ce qu'on appelle des oligonucléotides antisens, c'est-à-dire des protéines qui vont aller essayer de contrer la mauvaise action d'une mutation génétique pour empêcher le fait qu'elle fasse les dégâts dans le cerveau. Donc il y a tout un tas de recherches sur les thérapies géniques, il y a des petites molécules qui vont aller empêcher les enzymes d'agir pour couper les protéines, il y a des petites molécules qui empêchent l'agrégation des petites protéines tau que je vous ai montrées pour éviter la dégénérescence neurofibrillaire. Il y a des petites protéines qui vont augmenter la clairance, donc l'élimination de ces dégénérescences neurofibrillaires pour les sortir du cerveau. Et puis, il y a les immunothérapies, c'est-à-dire des anticorps anti-tau qui essaient d'attraper la protéine tau pour l'enlever du cerveau. Donc, il y a plein de voies d'action actuelles. Celles qui ont lieu à Nantes actuellement, on a un petit comprimé. Donc c'est l'essai Lucidity, donc c'est un petit comprimé qui est un inhibiteur sélectif de l'agrégation des protéines tau, donc c'est plutôt pour les formes légères, donc c'est en comprimé, c'est un essai qui est en cours depuis un petit moment et qui est en train de se terminer, on attend les résultats. Il semble, pour l'instant, ce n'est pas communiqué officiellement. Il y a des bruits qui courent qu'il y aurait peut-être une efficacité, mais on n'a rien de bien formel. On devrait avoir des résultats sur la fin de l'année, a priori. Il y a des anticorps monoclonaux anti-tau, donc des gens qui viennent tous les mois pour une perfusion d'anticorps anti-protéine tau pour empêcher l'agrégation de la protéine tau dans le cerveau, comme je vous l'ai montré. Donc on a deux études en cours, une du laboratoire UCB et une du laboratoire Janssen. Et puis il y a les anti. Alors, encore une fois, vous avez compris, la liste n'est pas exhaustive. Hein, c'est ce qu'on a à Nantes en ce moment en cours, et donc à Nantes et en France, en gros. Donc les anti-amyloïdes, on a celui de ce laboratoire. Là, c'est le tramiprosate, c'est une molécule qui est connue depuis longtemps. Donc là cette molécule, elle a été un petit peu modifiée, et donc elle veut bloquer l'agrégation des fibrilles d'amyloïdes. Donc c'est en comprimé, donc c'est l'intérêt, parce que les anti-amyloïdes, pour l'instant, ils sont essentiellement en perfusion. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment une voie différente, un blocage de l'agrégation amyloïde en comprimé. Et puis, il y a toutes les perfusions. Donc les perfusions, vous avez entendu parler il y a 2 ans de l'aducanumab. Donc l'aducanumab, c'est celui qui est sorti aux États-Unis, on va y revenir. Il y avait 2 études qui étaient menées en Europe, Emerge et Engage. Et du coup, le gros souci de l'aducanumab, c'est que Emerge a montré des résultats intéressants. Vous voyez, on était à moins 0,5 là. Le MMS, il ralentissait. On était à des vous savez, en statistique, il y a des petits p hein, qui doivent être significatifs en dessous de 0,05. Donc on avait une étude Emerge qui était positive. Et puis l'autre étude, Engage, qui était à peu près la même, qui était négative. Du coup, ça plombait leurs résultats. Ils ont interrompu précocement leur étude en 2019. Finalement, fin 2019, ils ont dit « Attendez, non, on a quand même des résultats intéressants. » Au final, ça a pu passer. Donc ça montrait que, vous voyez, on baisse très nettement. Donc là, on est sur le fameux PET amyloïde. Hein. On regarde l'amyloïde dans le cerveau. Donc les gens qui avaient le placebo, il y avait toujours autant d'amyloïdes, voire plus. Et puis ceux qui avaient le médicament, donc à petite dose et puis à grosse dose, ils n'avaient plus du tout, à la fin, ils n'avaient plus du tout d'amyloïde dans le cerveau. Donc il y a une efficacité anti-amyloïde indéniable. Donc, ce médicament est commercialisé actuellement aux États-Unis hein, sous le nom d'Adulem. On a longtemps pensé que ça allait passer en Europe, mais en fait, ça a été refusé. Et donc, il y a une nouvelle étude qui va débuter, qui s'appelle Envision, hein, qui aurait dû débuter en fin d'année, là, qui va probablement débuter tout début d'année prochaine, pour repartir à zéro, pour avoir des résultats très clairs et surtout s'assurer de la sécurité du médicament, parce qu'en fait, l'aducanumab, il a pour principaux effets secondaires, enfin, effets indésirables, de donner des œdèmes cérébraux et des hémorragies. Et là, la sécurité du produit, elle est actuellement pas suffisamment certaine par rapport à l'étude qui a été conduite pour pouvoir le sortir en Europe. Mais il y a d'autres anticorps en cours. Donc là, le donanemab, on ne l'a pas en France parce qu'on a été écarté parce que le CPP était trop strict. Hein, le comité de protection des personnes a refusé que la France fasse le donanemab, mais je pense qu'on va bientôt l'avoir normalement. Et donc, un autre anticorps qui montre des effets intéressants avec possiblement une sécurité du produit plus importante. Un autre anticorps, le gantenerumab, hein, qui est en injection sous-cutanée. Donc là, on va le débuter a priori l'année prochaine chez des gens qui ont uniquement une plainte nésique. Donc vraiment dans une volonté d'être dans la prévention de la survenue de la maladie d'Alzheimer. Hein, donc chez des gens à risque, bien sûr, hein, qu'on ait des facteurs de risque de maladie d'Alzheimer, des biomarqueurs Alzheimer positifs, mais sans maladie d'Alzheimer déclarée. Et puis, on a cet espoir du 27 septembre, c'est le lecanemab, vous en avez peut-être entendu parler à la télévision, dans les journaux. Donc, c'est un anticorps qui s'attaque aux formes fibrillaires solubles, donc avant qu'elles deviennent insolubles. Donc, c'est assez précoce dans la formation de la plaque amyloïde. Et donc, ce lecanemab du laboratoire Eisai clairement, alors il avait montré en phase 2 déjà l'année dernière, on nous avait présenté des résultats vraiment encourageants, hein, je vous passe, mais on avait voilà, une efficacité sur le PET, le fameux examen amyloïde, au niveau des marqueurs amyloïdes dans le sang aussi. Et puis, en cognition, il y avait aussi une efficacité. Et puis donc là, hein, on nous a annoncé, donc sur un essai qu'on a en ce moment à Nantes en cours, hein, il y a des gens qui viennent tous les 15 jours pour une perfusion de lecanemab. Et donc, on voit que donc, sur ces 1795 participants, à la fin de la phase en double aveugle, hein, ils ont mis en évidence une réduction du déclin. Hein. Donc on est d'accord, hein, on ne s'améliore pas, on décline moins vite. Hein. Ça, c'est un dogme pour l'instant en pathologie Alzheimer. C'est ce qui se passe avec les traitements symptomatiques qui sont actuellement en pharmacie. On ne va pas forcément mieux, parfois un petit peu, mais surtout on va moins mal, moins vite. Hein. Et donc, ils ont des effets sur le déclin cognitif, sur les échelles cognitives, sur les échelles fonctionnelles. Avec donc des résultats franchement encourageants, hein, modestes encore, hein, mais franchement encourageants. Donc il y a aussi une efficacité sur la charge amyloïde hein, et sur tout un tas d'échelles cognitives qu'on utilise dans les études. Donc c'est une des premières études qui montre une efficacité sur le critère principal et sur tous les critères secondaires. Hein. Donc on attend des résultats beaucoup plus poussés en fin d'année. Ils vont être présentés au congrès Alzheimer qui a lieu à San Francisco cette année, donc en décembre. Hein, donc il y aura des résultats beaucoup plus importants à ce moment-là, mais déjà les premiers résultats sont vraiment intéressants. Puis surtout, je vous ai parlé des hémorragies, des œdèmes, et là il y en a beaucoup moins a priori. Hein. Il y en a beaucoup moins, il y en a toujours, mais en symptomatique, hein, vous voyez. Symptomatique, c'est-à-dire que les gens s'en plaignent, hein, on est d'accord. Donc là, par exemple, ça, c'est les œdèmes cérébraux. Il y a 12% des gens qui sont traités qui font des œdèmes contre 1,7% dans le groupe qui ont le perlimpinpin. Mais par contre, il y a seulement 3% des gens qui sont symptomatiques. Hein, donc c'est très peu, en fait. Donc c'est-à-dire que c'est, voilà. Et puis, encore plus important pour les hémorragies, 17% de petites hémorragies, mais il y a moins d'1% des gens qui sont symptomatiques de la survenue d'une petite hémorragie dans leur cerveau. Donc, ce lecanemab, hein, il est soumis auprès des instances. A priori, ils veulent le soumettre pour 2023, en espérant avoir une commercialisation au courant 2023, fin 2023, début 2024. Donc, ça peut être quelque chose qui va très vite sur des perfusions, donc tous les 15 jours, a priori. Donc, en conclusion des anti-amyloïdes, on voit qu'il y a l'aducanumab, accepté aux États-Unis mais pas en Europe, le lecanemab qui est vraiment l'espoir du mois dernier, hein. Le crenezumab toujours en cours dans des études de prévention, le ganté dont je ne vous ai pas parlé dans les sujets prodromaux et légers, le donanemab donc, et plein d'autres hein, qui sont dans des études, dans des phases de développement plus petites, hein, genre des phases phase 1, phase 2A, 2B, etc. Et puis, pour avancer, parce que si on s'achemine vers la fin, donc on a des petites molécules. Hein. Donc, en petites molécules, on a des immunoglobulines, des anticorps qui vont aller essayer de jouer sur l'inflammation. Hein, parce que c'est une autre piste, c'est l'inflammation. Il y a aussi un essai en cours en France et à Nantes sur un antidiabétique, le sémaglutide. Donc, c'est un antidiabétique qui est autorisé sur le marché en injectable en France, mais qui existe en comprimé. Et du coup, qui aura une activité sur la plasticité des synapses, hein, sur le fait que les synapses fonctionnent mieux, notamment au niveau de la mémoire, etc. Et puis, il y a des thérapies géniques. Hein, donc là, on doit débuter bientôt une thérapie génique en injection comme une péridurale, mais en injection intrathécale. Hein, on injecterait un oligonucléotide pour tenter de modifier l'action d'une mutation qui va aller générer une anomalie sur la protéine tau. Et puis, on a aussi des médicaments symptomatiques sur le comportement. Hein. Donc ça, il y a plusieurs molécules en cours en France. Un petit mot de la dégénérescence frontotemporale qu'on oublie souvent. Vous savez, la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie d'Alzheimer et apparentée. Et la petite cousine, un peu parent pauvre au niveau de la recherche, parce que bien entendu, beaucoup moins de personnes, on dit 6-8 000 personnes atteintes de la dégénérescence frontotemporale en France. Eh bien là encore, il y a un bel essor au niveau des essais thérapeutiques. Il y avait peut-être 2-3 molécules dans les 2015. Et on se retrouve là avec plus de 20 molécules, et notamment sur des thérapies géniques. Il y a un gros effort qui est fait, enfin un gros essor sur les thérapies géniques. Alors en conclusion, je dirais que même si là, on a eu une belle surprise, en tout cas, on était content avec le lecanemab, on voit que l'efficacité va rester quelque chose quand même d'assez modeste. Et la question, c'est voilà, pourquoi on a un impact à chaque fois aussi modeste des molécules en cours ? Eh bien, il y a un paramètre, c'est vraiment le fait que cette maladie, du stade où on est totalement asymptomatique au stade où on est très avancé dans la maladie, Il y a un temps qui passe, il y a une temporalité qui doit être saisie et qui certainement joue un rôle important sur l'impact d'un traitement à un instant donné. Un autre paramètre très important, c'est que là, je vous ai parlé de deux actrices qui sont la protéine amyloïde et la protéine tau, mais il y a d'autres protéines dans le cerveau. Et en fait, on sait qu'on a, sauf cas très très purs, très très jeunes, avec une pathologie familiale héréditaire à 45 ans, en maladie d'Alzheimer, quand on atteint 60, 65, 70, on a souvent d'autres protéines, qui dysfonctionnent dans le cerveau. Et du coup, forcément, l'impact d'une thérapie ciblée sur une protéine va avoir une efficacité modeste. Hein, ce qu'on comprend tous, ça paraît assez évident. Donc les espoirs, hein, c'est basé sur vraiment mieux comprendre cette temporalité. Quand est-ce qu'on doit agir? À quel moment? Et donc ça, les biomarqueurs sanguins, etc., vont ouvrir un champ par rapport à cette recherche. Quel est l'intérêt des thérapies combinées? Pour l'instant, personne n'a essayé un anti-amyloïde, un anti-tau. Tout le monde est un peu prudent, mais ça va arriver. Hein. Et peut-être même un anti-alpha-synucléine, qui est la protéine qui est abîmée dans la maladie de Parkinson. Hein. Donc, et on sait que, passé 65 ans, il y a beaucoup de gens qui ont des petits amas aussi d'alpha-synucléine. Donc, peut-être qu'on va arriver à vraiment des thérapies très combinées, comme on voit dans d'autres pathologies, hein, comme pour faire l'analogie avec le VIH. Ou la cancérologie. Hein. La cancérologie, vous n'avez pas une ligne de chimio, juste un médicament, c'est une combinaison de chimiothérapie. Et donc, probablement que l'avenir, ça va être sur une combinaison de traitements. Et puis, il y a tout un tas d'autres pistes à explorer, sortir peut-être de la cascade, ou un petit peu sur l'inflammation, et puis de la prévention. Hein. Et ça, c'est un autre champ et c'est une autre communication, mais il y a tout un pan de recherche à faire sur la prévention et qui est en cours. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, docteur.